La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Patrick Saporito, faisant partie de l'équipe des responsables de l'église baptiste de Toulouse Métropole, EBTM. Êtes-vous ou avez-vous déjà été en proie à la tentation? Redoutez-vous une tentation trop forte pour vous? Comment réagissez-vous lorsque la tentation est là? Y a-t-il une différence entre épreuve et tentation? Le mieux pour savoir quelle attitude adopter face à la tentation est de regarder à Jésus lorsque lui-même a été tenté par le diable. Je lirai dans la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jusqu'ici donc, notre lecture de la parole de Dieu. La victoire sur la tentation est possible. Comment est-elle possible? C'est ce que je vous propose de voir en trois points. Premièrement, nous verrons la porte d'entrée dans la tentation. Deuxièmement, le combat dans la tentation. Et troisièmement, la porte de sortie de la tentation. Voyons premièrement la porte d'entrée dans la tentation. Jésus, dans la prière du Notre Père, en Matthieu chapitre 6, verset 13, nous a appris à prier « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Pourtant, dans ce récit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui conduit Jésus dans le désert. Pourquoi? Pour y être tenté par le diable. Surprenant, vous ne trouvez pas? Il y a là un mystère. Dieu est-il à l'origine de la tentation? Non, clairement non. L'épître de Jacques dans la Bible, au chapitre 1, verset 13, nous dit « Dieu ne tente lui-même personne ». Fin de citation. Il ne faut pas confondre mise à l'épreuve et tentation. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est Dieu qui met à l'épreuve et c'est le diable qui tente. Toute épreuve, comme pour Jésus qui a faim, peut ouvrir la porte à une tentation du diable. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut reprendre la main et utiliser la tentation venant de Satan pour accomplir son plan, qui est de détruire son pouvoir et ses œuvres. Le Saint-Esprit éprouva la résistance du Christ, alors que Satan le tenta pour essayer de l'attirer vers le mal et de le faire chuter. Tout bon produit est mis sur le marché après avoir subi une batterie de tests sur un banc d'essai. Plus ceux-ci sont rigoureux et plus la qualité du produit est grande. Avez-vous déjà regardé une publicité ou un fauteuil, un matelas ou une voiture soumis à une série de tests de résistance répétés? Eh bien, montre leur résistance. Le but de ces manœuvres n'était pas de démolir le matériel, mais de prouver qu'ils étaient d'excellente qualité. Pour Jésus, cette mise à l'épreuve était là pour prouver sa perfection en tant que fils de Dieu fait homme et ses qualités indispensables pour être le sauveur du monde. Et la qualité première est qu'il devait dépendre entièrement de Dieu son Père. Toute la tentation du diable visant à le détacher de son Père. Les épreuves que Dieu permet et même parfois envoie sont toujours pour le bien du chrétien, alors que les tentations du diable sont toujours pour nous faire du mal. L'épreuve est là pour tester notre dépendance à Dieu, dans le but de fortifier la foi du chrétien, et pour l'encourager à persévérer. Alors que la tentation est là pour nous faire croire qu'on peut se passer de Dieu et pour nous décourager de le suivre. Remontons à l'origine. Première mise à l'épreuve et première tentation qui a suivi. Vous vous souvenez? Dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17. L'interdiction de Dieu adressée à Adam de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal constituait-elle une tentation ? Non, mais plutôt une mise à l'épreuve pour savoir si Adam et Ève obéiraient à la parole de Dieu. Par contre, c'est le diable, le serpent et pas Dieu qui a tenté Ève à partir de la mise à l'épreuve venant de Dieu. Comment s'y est-il pris ? Je citerai Genèse chapitre 3 verset 1. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Fin de citation. Satan a fait douter Ève de la parole de Dieu. Voilà sa ruse, toujours la même. Et vous vous rappelez comment Ève a répondu ? Genèse chapitre 3 verset 6, je cite « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. » Fin de citation. Ce fruit défendu contenait trois caractéristiques sur lesquelles Satan va tenter Ève. Il était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Ce que l'apôtre Jean nommera plus tard, je cite, en 1 Jean chapitre 2 verset 16, « La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ». Fin de citation. Adam et Ève avaient été créés parfaits et avaient donc la possibilité de résister au mal. Ils étaient sans péché avant la chute. Mais ils vont tous deux échouer lamentablement en mangeant du fruit défendu, faisant ainsi plus confiance à Satan qu'à Dieu. Et c'est dans ces trois domaines, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, que Satan va tenter Jésus. Jésus, Dieu incarné, aurait-il pu pécher ? Sinon, à quoi bon cette tentation ? On peut se poser la question. Une chose est sûre, Jésus n'a jamais péché. Il pouvait être tenté de l'extérieur, comme nous. Et Adam et Ève aussi, mais pas de l'intérieur, car il est sans péché, contrairement à nous. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 14, nous dit, je cite, « D'autres sont tentés quand ils sont attirés par leur propre convoitise. » Fin de citation. Voyons notre deuxième point, le combat dans la tentation. La première tentation qui atteint Jésus est physique, celle de la convoitise de la chair. Au bout de 40 jours de jeûne volontaire, Jésus est dans une extrême faiblesse. Il a faim et le diable a soigneusement choisi son moment pour l'attaquer, en lui proposant d'utiliser ses pouvoirs surnaturels pour changer des pierres en pain. Quoi de plus naturel, il faut bien vivre. Et puis après tout, Jésus a été déclaré le Fils de Dieu par Dieu lui-même. Alors le diable lui demande en substance de le prouver, si tu es le Fils de Dieu. Mais si Jésus a jeûné 40 jours, ce n'était pas pour utiliser ses super pouvoirs divins. C'était au contraire pour se rendre vulnérable et pour pouvoir résister dans son humanité, dans toute sa faiblesse, pour se mettre à notre niveau humain, tout en étant Dieu. Il a mis ses pouvoirs divins de côté pour l'occasion. Il ne triche pas, il respecte les règles. Aussi, Jésus voit le diable venir et refuse d'entrer dans le rôle du magicien qui utilise la puissance surnaturelle pour satisfaire ses propres besoins. Plus tard, par contre, Jésus accomplira le miracle de la multiplication des pains, pas pour lui, mais pour le bien de ses auditeurs. La tentation de la chair touche évidemment aussi à la tentation sexuelle. Tout être humain connaît des pulsions sexuelles. La tentation serait alors de les assouvir indépendamment de la volonté de Dieu révélée dans sa parole, à savoir que les relations sexuelles sont réservées dans le cadre du mariage entre un homme et sa femme. Comment Jésus a-t-il répondu à Satan ? En discutant avec lui ? Non. En argumentant par la logique et l'intelligence ? Non. Mais puisque le péché originel a été de mettre en doute la parole de Dieu, Jésus va répondre par la parole de Dieu qui cite la parole de Dieu. Il est écrit. Le verset 4 de notre passage nous dit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Fin de citation. Qui est une citation de Deutéronome chapitre 8, verset 3. Qui plus est, Jésus place la parole de Dieu comme nourriture pour l'âme au-dessus du pain, nourriture physique, parce qu'elle fait vivre éternellement. Est-ce que cette parole est votre nourriture quotidienne ? De même qu'on a besoin de manger chaque jour et plusieurs fois par jour pour fortifier notre corps, on a besoin de nous nourrir de la parole de Dieu chaque jour pour fortifier notre âme, sinon on risque d'être faible et plus exposé à la tentation. La vie de l'homme dépend uniquement de Dieu qui lui a donné vie par sa parole et de l'obéissance à cette parole. Désobéir à Dieu, même pour assouvir un besoin naturel, était inconcevable pour Jésus. parce qu'il a voulu rester entièrement dépendant de lui dans sa faiblesse, en s'attendant à lui pour subvenir à tous ses besoins. Première tentation de Satan, celle de la convoitise de la chair, première victoire de Christ. La deuxième tentation de Satan est celle de l'orgueil de la vie. Je cite le verset 6 de notre passage. Satan lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » On pourrait paraphraser la tentation de Satan à Jésus comme l'a fait le théologien Godet. Je cite « N'aie peur de rien, en tout cas Dieu t'aidera. » Fin de citation. Cette tentation s'applique non seulement à ceux qui sont jeunes dans la foi, mais à ceux qui sont avancés, en leur proposant de faire preuve d'un excès de foi cette fois, avec justement une promesse de l'Écriture comme quoi ils seront gardés. Ce n'est pas par hasard si Satan a conduit Jésus à Jérusalem et l'a placé en haut du temple, bien visible de tous. Le diable voulait que Jésus se jette du haut du temple pour convaincre la nation d'Israël qu'il était le roi successeur de David. Ici, pour tenter Jésus, le diable fait appel à l'orgueil de la vie, du genre « vous allez voir ce que vous allez voir, je vais vous en mettre plein la vue ». Et pour cela, sa ruse est d'utiliser la parole de Dieu. Le psaume 91, « puisque Jésus lui a répondu avec la parole de Dieu ». Pour combattre notre ennemi, il convient de reconnaître ses ruses. Et justement, une précision manque dans la citation de Satan du psaume 91, verset 11. Il a omis de préciser, je cite, « de te garder dans toutes tes voies ». Le verset 11 dit « car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Fin de citation. Le diable sait bien que cette promesse s'applique à ceux qui marchent avec Dieu et il propose à Jésus des voies qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. La ruse du diable est de citer partiellement la parole de Dieu. D'ailleurs, il se garde bien de citer le verset 13 du même psaume 91 et pour cause, puisqu'il dit ce verset 13, je cite « tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Fin de citation. Cette deuxième tentation nous apprend deux choses sur Satan. Premièrement, il connaît les Écritures au point qu'il peut la citer rapidement. Ce n'est pas parce que quelqu'un connaît par cœur les Écritures, la Bible, à la tête remplie de doctrines bibliques et la bouche remplie de versets, qu'il s'est repenti et a cru en Jésus comme son sauveur. Connaître est une chose, croire en est une autre. Il n'y a que 30 cm qui séparent la tête du cœur, mais parfois, ça peut prendre beaucoup de temps pour descendre de la tête au cœur. La deuxième chose qu'on apprend sur Satan est qu'il déforme la parole de Dieu, ou la cite partiellement, ou hors de son contexte, ce n'est pas nouveau. Il avait déjà falsifié la parole de Dieu lorsqu'il a tenté Ève en prétendant, je cite, Genèse chapitre 3 verset 1, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Alors que Dieu avait dit, en Genèse chapitre 2 verset 16, je cite, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Fin de citation. Est-ce que vous avez déjà entendu des personnes dire, « La Bible, on peut lui faire dire ce qu'on veut ?» C'est exactement ce que Satan a essayé de faire, prendre un passage hors de son contexte ou partiellement ou en tordre le sens. J'ai aussi entendu quelqu'un dire, tu sais, la Bible, elle aurait bien besoin d'être réactualisée. Récemment, on a entendu que le pouvoir en place en Chine veut réécrire la Bible pour servir le parti. Mais nous n'avons pas à soumettre la Bible à nos idées. Nous avons, nous, à nous soumettre à la Bible. Jésus a résisté une première fois à Satan par la parole de Dieu. Satan a rusé en utilisant aussi cette parole, mais de façon erronée. Est-ce que Jésus va changer de stratégie? Non. Il va répondre encore par la parole, cette fois, en rajoutant un petit mot, mais pas des moindres, le mot « aussi ». Verset 7, il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu », qui est une citation de Deutéronome chapitre 6, verset 16. D'où l'importance, vous voyez, de bien connaître toute la parole de Dieu, pas juste une partie, pas juste les passages qui nous plaisent. La réponse de Jésus, je cite, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu », n'est pas que le diable n'a pas le pouvoir ou le droit de tenter Jésus, mais que lui, Jésus, ne veut pas mettre Dieu, son Père, à l'épreuve. Le diable poussait Jésus à agir comme si l'Éternel était à son service, pour mettre Dieu à l'épreuve, en le forçant à accomplir les promesses divines hors de leur contexte, alors que Jésus se voulait obéissant à son Père. La réponse de Jésus « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu » veut dire « Tu n'exigeras pas de Dieu qu'il agisse selon ta volonté, car ce serait vouloir le commander. Le problème est lorsqu'on cherche à forcer la main de l'Éternel, lorsqu'on prie que ma volonté soit faite et non pas que ta volonté soit faite. Aussi, on entend parfois dire que Jésus a pardonné nos péchés passés, présents et à venir. D'accord pour les péchés passés et présents, pour autant qu'on lui ait demandé pardon. Mais qu'en est-il pour nos péchés à venir? N'est-ce pas aussi tenter Dieu que d'abuser de sa grâce en préméditant ce qu'on sait être un péché pour s'en sortir facilement? Il reste peu d'argent à la fin du mois, allez, on va falsifier la feuille d'impôt, on aura moins à payer, il faut bien vivre de toute façon. Et puis Dieu pardonne toujours. Nous tentons le Seigneur quand nous ne voulons en faire qu'à notre tête. C'est vouloir se passer de lui au lieu de lui obéir et de s'attendre à lui pour la délivrance. Attention donc à ne pas tenter Dieu par un excès de foi. Je prends aussi l'exemple de quelqu'un qui a une grave infection et qui veut se passer d'antibiotiques et des médecins, disant qu'il a la foi que Dieu peut le guérir. Bien sûr, Dieu peut le guérir, mais Dieu peut aussi utiliser des médecins formés et compétents et des médicaments bien choisis pour le soigner. Et bien sûr, c'est à Dieu, le grand médecin, qu'il convient de demander en premier. Deuxième tentation de Satan, celle de l'orgueil de la vie. Deuxième victoire de Christ. Voyons maintenant notre troisième point, la porte de sortie de la tentation. Au verset 8, Satan tente Jésus pour la troisième fois dans la convoitise des yeux cette fois, le désir de posséder. Le diable l'a transporté sur une très haute montagne pour lui montrer tous les royaumes du monde qu'il est prêt à lui offrir. Le monde a été créé par Dieu, mais est effectivement passé sous la domination de Satan à cause du péché. Cette tentation était moins subtile que les deux précédentes, plus grossière même, parce que le diable offre à Jésus ce que Dieu lui avait déjà promis, la gloire, mais sans Dieu et sans passer par la souffrance. Pour cela, Satan propose à Jésus la solution de facilité, qui est de l'adorer, de fonder son royaume par le prestige de son pouvoir miraculeux et de renier Dieu. Et là, Jésus coupe court. Il nomme le diable par son nom, Satan, qui veut dire adversaire, et lui ordonne de se retirer. Et là encore, Jésus cite l'Écriture qui rappelle le premier commandement, Deutéronome chapitre 6, verset 13, je cite, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est là que le diable le laissa. Troisième tentation de Satan, celle de la convoitise des yeux, troisième victoire de Christ. Là où Adam avait cédé à l'orgueil de la vie, à la convoitise des yeux et à la convoitise de la chair avec son épouse, eh bien Jésus a remporté cette triple victoire sur la tentation. Et c'était non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui croiraient en lui que Jésus a remporté cette victoire. En effet, l'autre alternative pour récupérer le monde à la merci de Satan était que Jésus s'en remette au calendrier et à la volonté de Dieu son Père. En renonçant à tout ce que le monde pouvait offrir et en souffrant pour nous dans le sacrifice ultime de lui-même sur la croix. L'homme, dans son orgueil, veut prendre la place de Dieu. Eh bien, en réponse à cela, Dieu, en Jésus-Christ, a pris la place de l'homme en s'humiliant, au point de se faire punir à notre place par amour pour nous, pour expier nos péchés. Jésus a renoncé à l'orgueil de la vie. Et en renonçant aussi à la convoitise des yeux, tous les royaumes du monde lui reviennent de plein droit, de par sa mort et sa résurrection. Et il reviendra bientôt pour régner. Aussi, en renonçant à la convoitise de la chair, Jésus est devenu lui-même la nourriture pour notre âme. Il est le pain de vie qui rassasie notre âme par sa parole. Il est cette parole incarnée. Alors, comment résister au diable quand la tentation est là? Eh bien, en suivant Jésus qui nous a appris à prier en Matthieu chapitre 6, verset 13, je cite, « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Fin de citation. Jésus a été tenté pour nous et il est resté fidèle et dépendant de Dieu pour que nous le soyons aussi. Je cite Hébreux chapitre 2, verset 18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Fin de citation. Dieu peut nous envoyer des épreuves, mais sans jamais nous tenter. Si le diable veut nous tenter, il nous faut déjà reconnaître sa stratégie, qui peut se résumer ainsi. Il se fait passer pour quelqu'un de respectable en citant la parole de Dieu, mais partiellement ou en la déformant. Il cultive l'égoïsme, de vivre pour son propre plaisir, en nous faisant croire que Dieu veut nous frustrer et il veut nous éloigner de Dieu. Il propose des raccourcis pour obtenir ce qu'on désire, vite, sans peine ni souffrance, ce qui est très séduisant à notre époque où tout va très vite. Mais Dieu ne veut pas nous frustrer, comme Satan voudrait nous le faire croire. Qu'est-il arrivé à Jésus lorsqu'il a refusé de servir Satan ? Il est écrit que, je cite, « les anges le servirent ». Le psaume 91, versets 11 et 12, que Satan tenta de tordre, a été parfaitement accompli, mais au temps de Dieu. À l'exemple de Jésus, voilà les deux seules réponses à donner au diable quand il veut nous tenter. Arrière Satan et il est écrit. Satan est impuissant devant ceux qui lui répondent par la parole de Dieu et qui lui obéissent. Si Jésus a résisté à Satan sans ses pouvoirs surnaturels, nous le pouvons aussi, mais avec son aide. Lui résister par nos propres forces serait vain. Pour cela, si vous ne l'avez pas encore fait, Jésus vous invite à aller à lui dans la repentance et la foi en son sacrifice. Et si, même en tant que chrétien, il vous est arrivé de céder à la tentation, eh bien là encore, allez à Jésus pour demander la grâce de Dieu pour être pardonné, parce qu'il a payé le prix suffisant de notre pardon à la croix. Oui, la victoire est possible sur la tentation.
En lui depuis toujours, à Dieu son Père vraiment uni, en relation de parfait amour, et lui-même est Dieu, il est la vie, il vient sur terre envoyé de Dieu, tous les pouvoirs lui sont donnés, mais il ne fait rien, ne dit jamais rien. S'enfuiser d'en haut, le précieux soutien. Je vous déclare au nom de la Bible que le Christ est bienvenu des cieux. Je vous déclare au risque de déplorer qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et je proclame au nom de l'Écriture Jésus est bien le seul sauveur. Je le proclame, il n'y en a pas d'autre. Il est le seul, ne cherchez pas ailleurs. Seul sauveur.